vous invite à retrouver le passage qui était le thème pour la réunion de prière de mercredi soir, donc Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, les 11 premiers versets. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Alors, après être revenu sur le passage de la réunion de prière de mercredi soir, j'aimerais maintenant revenir sur la fin de la citation que j'ai lue au culte dimanche dernier concernant donc la reine Élisabeth, où donc c'était écrit par l'auteur qui avait écrit un livre sur sa foi et qui disait « Bien qu'elle ait été elle-même reine, Sa Majesté a toujours su qu'elle avait un souverain et que ce dernier l'aimait, qu'il était mort pour elle, qu'il lui avait pardonné et qu'il l'appelait maintenant à vivre une vie de service. Un jour, elle a déclaré « Des milliards de personnes suivent l'enseignement du Christ et trouvent en lui la lumière qui guide leur vie. Je suis l'une d'entre elles. Elle était peut-être une reine, mais elle se voyait d'abord et avant tout comme le sujet du roi. » C'est donc un texte qui est révélateur et des citations, des expressions qui sont révélateurs, non seulement de sa foi personnelle, mais aussi surtout d'une vérité fondamentale de la foi chrétienne. Dans Romains chapitre 3, verset 22 jusqu'au verset 24, nous lisons « Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Paul nous dit, il n'y a point de distinction. Donc finalement, peu importe notre classe sociale, notre âge, notre nationalité, notre profession, tout le monde est pécheur, nous dit la Bible. On se trouve donc tous devant la même difficulté, le même problème, le même besoin. On se trouve tous dans le même bateau devant Dieu, tous dans la même galère, on peut dire, devant Dieu. Dans le psaume 51, verset 7, le psalmiste dit, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. La Bible nous dit que simplement par le fait d'être un être humain, nous sommes pécheurs. Que le péché est ancré dans notre nature comme un élément de notre ADN. Cette nature de péché est là et on est incapable, quelle que soit la personne, on est incapable de s'en démêler. On est tous donc pécheurs devant Dieu. Dans une autre partie de Romains chapitre 3, quelques versets auparavant, à partir du verset 9, l'apôtre Paul va dire quoi donc ? Sommes-nous plus excellents que les autres ? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. On ne peut pas être beaucoup plus clair, beaucoup plus net quant à l'intention de ce que Dieu voulait dire à travers l'apôtre Paul. Il dit, je n'ai rien à faire de qui vous êtes. Sachez que vous êtes pécheurs aux yeux de Dieu. Parce que ça fait partie de la nature humaine et rien ne nous sort de cette réalité. Vous avez peut-être remarqué que souvent le monde politique est divisé en deux camps et on parle en général de deux camps, droite et gauche. Et selon l'appartenance politique, selon le point de vue politique et les théories, soit on va favoriser pour X raisons les gens riches et puissants, soit on décide qu'il faut renverser cela, qu'il n'y a que les pauvres qui sont bons, mais qui sont maltraités et qui méritent de par leur pauvreté d'être mis à la place des autres. Ben, c'est intéressant de voir que la loi de Moïse, qui nous révèle le cœur de Dieu, les intérêts de Dieu, la vision de Dieu, nous montre que Dieu ne reconnaît pas cette séparation droite-gauche, cette vision-là du monde entre les riches et les pauvres, où il y aurait une différence entre les deux, où il faut que l'un ou l'autre aille en avant. Dans Lévitique chapitre 19, verset 15, Dieu dit, j'ai rien à faire si quelqu'un est riche ou pauvre. Il doit être traité de la même manière devant la justice, et c'est ce que je demande de vous. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre, et tu ne favoriseras point la personne du grand, mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Finalement, c'est le même principe qu'on retrouve dans la vision que Dieu a de l'humanité qui est explicitée dans le Nouveau Testament. Dieu dit, j'ai rien à faire de qui vous êtes, d'où vous êtes, ce que vous avez fait. Moi, je traite tout le monde de la même manière. Je ne vais favoriser ni les riches, ni les pauvres. Je traite tout le monde comme il le mérite. Actes chapitre 10, verset 34. Pierre ouvre la bouche et dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme. » Si vous êtes juif ou non-juif, si vous êtes riche ou pauvre, finalement, vous êtes tous à pied d'égalité devant Dieu, vous êtes tous considérés coupables et pécheurs devant moi. Romains 2, verset 11, car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. D'où cet auteur disait, bien qu'elle était reine, elle a reconnu qu'elle avait tout autant besoin d'un sauveur que quiconque d'autre. Être même reine ne suffit pas pour pouvoir s'échapper au problème du péché. Être pauvre n'est pas non plus une excuse pour le péché, dit Dieu. Il n'y a pas de différence. Donc, que tu sois reine d'Angleterre ou que tu es comme Louis de Funès, mis en place un plan merveilleux pour devenir reine d'Espagne, ou que tu sois quelqu'un de tout à fait simple, il n'y a qu'un seul moyen d'être juste aux yeux de Dieu. Il n'y a qu'un seul moyen de sortir de ce problème du péché. Il n'y a qu'un seul moyen de vaincre le péché pour être juste aux yeux de Dieu, pour entrer en relation avec Dieu, pour être enfant de Dieu. Actes chapitre 4, verset 12 nous dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui n'ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. » Si c'est une autre tendance religieuse, une autre divinité, ou si c'est mon propre nom à moi, en disant « Ah ben, Dieu me connaît quand même. » Dieu sait de quoi je suis fait, donc avec moi, il arrondit un petit peu les coins, il ferme un peu les yeux de temps en temps, parce que ben, c'est moi quand même, donc il va le faire. Je dis, il n'y a qu'un seul moyen qui a été donné, il n'y a de salut en aucun autre, même en mon nom propre. Je n'ai aucune espérance du salut en dehors de celui qui a été donné, c'est-à-dire Jésus-Christ. Tous donc, quel que soit leur arrière-plan, quel que soit leur statut social, est considéré pécheur aux yeux de Dieu et a besoin d'être sauvé par Dieu. Cette même principe d'égalité s'applique également au niveau des péchés. Nous souvent on essaie, n'est-ce pas, de mettre des grades et des niveaux de péchés. Certains péchés sont bien graves, c'est ce que font les autres généralement. D'autres péchés ne sont pas trop importants, c'est ce que moi je fais. Ça mérite même presque de pas d'être appelé péché. C'est des petites faiblesses de caractère, ou c'est des tendances, c'est comme je suis. Mais la Bible nous dit que Dieu ne fait ni de favoritisme entre les gens, ni de favoritisme entre des comportements qu'ils considèrent comme péché. Jacques chapitre 2, verset 8. Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Si on le fait, on est assez content de nous-mêmes, n'est-ce pas? Ah ben là, j'ai été bien, j'ai fait du bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché et vous êtes condamné par la loi comme des transgresseurs. Donc d'un côté, j'ai fait du bien, mais si j'ai commis le péché de favoritisme, il dit ben, vous êtes condamné par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Donc finalement, Dieu dit « Peu importe comment vous péchez, un péché en vaut un autre. » À mes yeux. Vous êtes tout aussi coupables devant moi. Donc, pas de favoritisme à cause de la personne, pas de favoritisme au niveau des péchés commis. D'où donc que dans Romains chapitre 3, verset 10, qu'on a lu tout à l'heure, Paul peut dire « Il n'y a point de juste, pas même un seul. » Parce qu'aucun être humain n'ait vécu toute sa vie sans commettre le moindre péché. En dehors, bien évidemment, de Jésus-Christ lorsqu'il était sur la terre. Sinon, tous nous sommes pécheurs. Et c'est donc heureusement pour cela que le verset 8 de Romains 5 existe et reflète une réalité. C'est-à-dire Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. La Bible nous montre très clairement qu'on est pécheur. Qui qu'on soit, quoi qu'on ait fait, on est pécheur et condamné. Mais, et c'est pour ça que les apôtres ont pu appeler le message qu'ils avaient à communiquer, cette bonne nouvelle, cet évangile qui veut dire bonne nouvelle, parce que cette bonne nouvelle, c'est que Dieu prouve son amour envers nous pécheurs, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu n'a pas dit, écoute, faites un grand effort, et quand vous devenez des gens de bien, je trouverai une solution pour vous. Ou devenez parfait, et là je vais pouvoir vous justifier. Il dit, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu nous aime à tel point qu'il dit, je sais que vous êtes pécheurs. Je n'approuve pas votre péché. Je ne dis jamais que votre péché n'est pas grave. Mais ce que je dis, c'est que malgré votre péché, je vous aime suffisamment de donner mon Fils en sacrifice pour vous. Donc Christ est mort pour nous, les pécheurs, pour nous sauver, pour sauver le pécheur. Si on retourne dans Romains 3, verset 23, on a le point qu'on a vu il y a quelques instants, car tous ont péché. Mais ce verset continue. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu à cause de leur péché. Mais ce tous qui englobe tout pécheur, tout être humain qui est pécheur, montre que Dieu offre cette possibilité aussi à tous d'être gratuitement justifié. Il ne dit pas, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et puis, il y a quelques préférés de Dieu, quelques favoris, qui va justifier par la grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Il garde le même, il fait référence au même mot. Tous ont péché et sont justifiés par la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est le même « tous » dans le verset 24 que dans le verset 23. Donc ça veut dire à nouveau, peu importe l'arrière-plan, peu importe ce qu'on a pu faire, comme tous sont pécheurs, tous peuvent bénéficier de cette grâce de Dieu qui est en Jésus-Christ. Rien n'est au-delà de la grâce de Dieu. Aucun péché n'est tellement grave que ce sacrifice de Jésus ne puisse pas nous justifier devant Dieu. Souvent, on a tendance de tomber dans deux extrêmes. Soit on dit, oh, mon péché, c'est pas grave. Soit parfois, on se dit, ah, mon péché est tellement grave que je n'oserai jamais m'approcher de Dieu. Je n'oserai jamais faire confiance à Dieu, parce que moi je sais ce que j'ai pu faire. C'est un peu ce que disait l'apôtre Paul, il disait, je sais ce que j'ai fait. J'ai persécuté l'Église de Jésus-Christ. J'ai mis des chrétiens à mort. » Et dans la même phrase, il peut dire, « Mais par la grâce de Dieu, je suis devenu ce que je suis. Je suis devenu apôtre. Je ne le mérite pas à cause de ce que j'ai fait. Mais malgré tout, Dieu a prouvé son amour envers moi lorsque j'étais encore pécheur. Il a donné son Fils pour moi et donc par la grâce de Dieu, je suis devenu maintenant ce que je suis en Jésus-Christ. » Jacques qui disait tout à l'heure que si, même si vous gardez 9/10 de la loi, si vous commettez un péché contre 1/10, ben vous êtes coupable. Ce même apôtre dit dans le chapitre 1, verset 9, en pensant à ce que Dieu fait pour le pécheur, que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation. Finalement, il dit, ben, comme on est tous au même niveau en tant que pécheurs devant Dieu, tous, quel que soit notre arrière-plan, quel que soit notre péché, on est remonté au même niveau devant Dieu, puisque Dieu, dans son amour, s'est donné pour nous et nous a sauvés. Parce que ce sacrifice de Jésus est parfait. C'est pour ça que personne n'est au-delà de la grâce de Dieu. Qu'aucun péché soit au-delà de ce que Dieu peut justifier en Jésus-Christ, parce que ça ne dépend pas de moi. Ça dépend du sacrifice de Jésus, et ce sacrifice est parfait. Ce qui veut dire que si je viens à Dieu en Jésus-Christ, j'ai un sacrifice parfait pour couvrir mon péché. Donc, quoi que j'ai pu faire, rien ne va enlever cette perfection du sacrifice de Jésus, parce que son sacrifice est lié à sa vie qui était parfaite et à sa personne qui est parfaite. Hébreux chapitre 7, verset 25 nous dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il peut nous sauver de manière parfaite à cause de qui il est. Pour ça que 1 Jean chapitre 1 verset 9 peut dire sans crainte, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il est fidèle à la promesse qu'il fait en Jésus-Christ. Et il est juste parce qu'il sait qu'il peut nous pardonner tout en étant juste parce qu'il y a un sacrifice totalement parfait qui nous couvre. Il n'est pas en train de devoir arrondir les coins, nous faire mine que des choses ne sont pas telles quelles, ou fermer les yeux à certaines choses. Mais ce qu'il regarde, c'est ce sacrifice parfait qui couvre notre péché. Ce dernier verset, donc, dans 1 Jean 1, 9, souligne un autre aspect important de l'Évangile. Donc, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. On a vu dans Romains 3 que ce mot « tous » s'applique à la largeur de l'accueil de Dieu, qui est ouvert à tous en Jésus-Christ. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, mais Paul ajoute, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Il faut donc être en Jésus-Christ pour que ce sacrifice parfait devienne effectif pour nous. Tous sont invités. Tous ceux qui sont pécheurs tous ceux qui ont péché, qui ont été privés de la gloire de Dieu, sont gratuitement justifiés par la grâce, mais par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Dans Éphésiens chapitre 1, versets 7 et 8, Paul dit « En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. » On a déjà vu que Dieu ne fait pas de favoritisme pour qui que ce soit. Si on est reine d'Angleterre, ou si on est moi, ou toi. Dieu ne va pas faire de favoritisme et dire, bah, écoute, puisque c'est toi, il n'y a pas de souci. Puisque c'est toi, je vais te justifier gratuitement par ma grâce. Il dit, je vais le faire. Si tu es en Jésus-Christ. Parce que si je vais pouvoir te justifier, te sauver, c'est par le moyen de la justice, de la justification, de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et cela, on a vu, c'est par la foi. On se trouve en Jésus-Christ si on vient à lui par la foi. Éphésiens 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, ça on a vu dans Romains 3, 23, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. On est donc sauvés par sa grâce, mais par le moyen de la foi, parce qu'on a besoin d'être en Jésus-Christ pour recevoir cette rédemption. C'est en lui qu'on peut être sauvé. C'est en lui qu'on a le pardon des péchés. Donc, on entre en lui, on est uni à lui pour être trouvé en lui par l'œuvre de l'Esprit lorsqu'on place notre foi en lui. Lorsqu'on a cette foi qui dit et qui croit que Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner notre péché. Dans Romains chapitre 4, Paul dit, « Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père selon la chair, a obtenu ? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu, car que dit l'Écriture ? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. » Si on saute jusqu'au verset 23, à la fin du chapitre, mais ce n'est pas à cause de lui qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus, notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Comme Abraham, nous serons sauvés si nous avons cette foi que Dieu est fidèle et juste de faire ce qu'il a dit. Donc il continue dans le premier verset du chapitre 5, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Étant justifiés par la foi, puisque Dieu impute à justice cette foi, puisque nous sommes justifiés par la foi, nous avons maintenant la paix avec Dieu. Parce qu'il nous a sauvés, nous faisons maintenant partie de ce tous qui sont rachetés, qui sont justifiés par le sacrifice de Jésus. Donc, on est unis à Jésus par cette foi que Dieu est fidèle et juste de faire ce qu'il a dit. Par cette foi qui croit Dieu, quand il dit que Christ est mort pour nos péchés, ressuscité pour nous, qu'il est mort à notre place, et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts pour nous donner la vie. Foi aussi que ses jugements sont justes, que ses voies sont justes, que Dieu est juste. Quand il me dit que ce que je fais et péché, et que j'ai besoin de lui. Et cette foi, comme toujours, n'est pas que théorique. La Bible dit, cette foi va se voir. Cette foi va être pratique. Si on croit Dieu lorsqu'il nous dit cela, alors en venant à lui, on va essayer aussi de nous débarrasser de ce péché, parce qu'on va savoir que ça ne fait pas plaisir à Dieu, que cela a causé la mort de Jésus-Christ, que cela fait souffrir notre Père. Galates 5, verset 25, « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. » Si nous avons la foi de croire que Dieu nous ressuscite avec Christ par son Esprit, alors croyons que Dieu va œuvrer en nous pour vaincre le péché, pour nous aider à marcher selon l'Esprit. Le plan de Dieu en Jésus-Christ, c'est de prendre des pécheurs et de nous sauver de tout péché. Des conséquences du péché, mais aussi du péché même. C'est son objectif d'éliminer le péché dans notre vie par le fait de nous convaincre du péché et nous convaincre de ce que lui y désire pour nous. Par son esprit, il peut nous sanctifier dans notre vie quotidienne, tout comme il peut nous justifier. Ça reste un combat. La Bible nous dit que le péché reste accroché à nous parce que c'est intégré dans notre ADN depuis que le péché est entré à travers Adam et Ève. Donc ça reste un péché, mais il est là pour nous aider. Donc comme il n'y a aucun péché qui soit trop grand pour qu'on puisse être justifié par Dieu, aucun péché non plus n'est trop grand pour pouvoir être sanctifié par l'œuvre du Saint-Esprit en nous, combinant avec la parole de Dieu pour nous aider à prendre ces armes dont on a chanté tout à l'heure, pour combattre le péché qui reste accroché à nous. Il se peut qu'il y aura des chutes dans notre vie. La Bible nous montre même l'apôtre Pierre, qui a chuté plus qu'une fois. Mais si justement nous avons cette foi, si nous collaborons avec celui qui veut nous justifier, qui veut nous sanctifier, alors la Bible dit qu'il nous aidera à être transformés de gloire en gloire en Jésus-Christ. Donc ce soir, quel que soit notre arrière-plan, quelle que soit notre position dans la société, Dieu nous dit, sachez que je ne fais pas de favoritisme, je ne ferai pas d'exception parce que c'est toi. Le seul moyen de sortir de cette catégorie de pécheur privé de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu, donc de tout espoir d'une vie éternelle avec Dieu, c'est ce moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Le besoin est égal, mais l'offre est égale aussi. C'est même tous sont ceux qui peuvent bénéficier de ce moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, par le moyen de la foi qui nous permet de venir à Jésus-Christ. Et puis, il désire par la suite nous sanctifier, de vaincre le péché dans notre vie. Ce soir donc, que nous puissions permettre à l'Esprit de Dieu de nous convaincre de la vérité de sa parole, de nous convaincre que nous sommes pécheurs, mais que Dieu a fourni la solution. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Si c'est nécessaire ce soir, si le Saint-Esprit te convainc que tu fais toujours partie de ce groupe de tous ceux qui sont pécheurs et donc privés de la gloire de Dieu, acceptez ce soir cette bonne nouvelle que les apôtres ont communiquée, que Dieu, dans son amour, a prouvé son amour en fournissant ce moyen de la rédemption en Jésus-Christ pour nous. Et qu'en simplement mettant notre foi en lui, nous devenons bénéficiaires de ce projet du salut, quel que soit notre arrière-plan, quelles que soient les choses qu'on ait pu faire. Si on l'a déjà compris, si on a déjà placé notre foi là-dedans, ben soyons encouragés dans ce statut que Dieu nous donne. Soyons convaincus que quel que soit notre image de nous-mêmes, quelles que soient les choses qu'on ait pu faire, Dieu fait de nous ses enfants en Jésus-Christ. Il nous unit à Jésus-Christ. Il nous justifie, il nous sanctifie. Et si on est en train de combattre le péché dans notre vie, soyons encouragés aussi que par ce moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, Dieu va accomplir son projet de nous transformer de gloire en gloire. Nous collaborons avec lui, ayons foi en lui et marchons avec lui tous les jours.